lors du mois d'août 1914, nous sommes encore dans une guerre de mouvement. Nous savons bien que l'Allemagne a envahi la Belgique. Et le déplacement des troupes sur le terrain, les avancées allemandes, les avancées anglo-françaises pour les contrer, eh bien, donne une orientation de ces déplacements vers Mons, Charleroi et Waterloo. Et on voit dans le discours du temps, notamment dans la presse, toute une série de références qui donnent à penser qu'on va peut-être vivre la bataille décisive aux alentours de Waterloo, comme un clin d'œil de l'histoire presque 100 ans plus tard, et en finir avec cette guerre. Et cette illusion-là est extrêmement intéressante à analyser. Quelque part, on rêve d'un Waterloo, mais on rêve d'un Waterloo comme on faisait la guerre autrefois, une bataille, une journée, et on rentrait chez soi.
Ça, c'est du côté franco-britannique, c'est vrai aussi du côté allemand ou pas ?
Alors, c'est en partie vrai du côté allemand, dans la mesure où il y a deux choses. La première, c'est que le premier document que les Allemands distribuent aux Belges, un document en français et en néerlandais, contient une référence à la bataille de Waterloo. C'est dire si ce document a été pensé, puisque ce sont les envahisseurs qui doivent d'une certaine manière convaincre de leur initiative, ce qui n'est pas chose simple. Et ce document, signé von Emich, le commandant en chef de l'armée de la Meuse, dit faire appel de la bataille de Waterloo en disant « Mais vous voyez, la dernière fois que nous sommes venus chez vous, c'était pour vous protéger de l'envahisseur français et nous sommes animés des mêmes intentions. » Et le paradoxe, c'est que après la bataille de Liège, l'état-major allemand prévoit une décoration pour les vainqueurs de la bataille de Lüttich avec un bandeau « Waterloo-Lüttich ». Autrement dit ici, Waterloo redevient la victoire prussienne, mais évidemment les Belges ne sont plus associés à cette victoire. Donc on voit que dès les débuts de la guerre, chez tous les belligérants, il y a une sensibilité au fond à un événement qui est la dernière grande bataille européenne et en particulier vécue sur le territoire de la Belgique, avant que celle-ci n'existe.
Et alors, en 1915, les choses changent un petit peu, parce que là, on a surtout parlé du début de la guerre. Est-ce qu'au moment du centenaire, il y a des choses qui marquent particulièrement ce centenaire ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que le centenaire a été évidemment conçu avant 1914 déjà, parce que c'est quelque chose qu'on prévoyait. Et donc, par exemple, on prévoyait, dès les années 1910-1911, d'ériger un ossuaire et un monument à la paix, pour inviter tous les anciens belligérants à célébrer la paix. On sait ce qu'il en est advenu. Mais au moment donc des faits, eh bien, on voit qu'il y a un accommodement de la part notamment des Anglais par rapport aux Français. Et donc, on ne peut pas ne pas commémorer Waterloo en Angleterre. Ce n'est pas possible. Waterloo fait partie de l'identité impériale britannique. Mais on va le faire avec un tact très anglo-saxon. Et on verra le Times, par exemple, prendre des gants pour évoquer un Napoléon qui n'a pas eu de chance, finalement, à Waterloo. Et Wellington, oui. Un discours impensable au XIXe siècle. On verra, en contrepoint, l'ambassadeur de France décoré de petits drapeaux français, la statue de Wellington. Et tout à coup, Wellington et Napoléon vont faire partie d'une même galerie de héros qui facilite une assimilation. Et d'autre part, et c'est dans le camp français, la République a convoqué Napoléon. Et ça, c'est extraordinaire, parce qu'au début de la guerre, il y a tendance à assimiler Napoléon au Kaiser, mais très vite, on marque les distinctions, et Napoléon revient, on fait appel à lui, on fait appel au fantôme de Napoléon, ça apparaît sur des cartes postales, où on voit le fantôme de Napoléon à côté de Foch, à côté des poilus, en les encourageant, il y a des romans, des textes qui paraissent sur le sujet, et c'est pas n'importe quel Napoléon, c'est le Napoléon du mémorial de Sainte-Hélène, qui est convoqué, qui est sollicité.
C'est-à-dire ?
Celui qui a forgé sa propre légende de défenseur de la liberté des peuples contre les tyrans, et le tyran étant évidemment le Kaiser.